On va commencer cette deuxième communication. Le micro marche. Ouais. Donc, non, ça va, laisse-le au milieu par toi. Je vous présente donc Henri Béard, que beaucoup d'entre vous connaissent personnellement, ou bien par des lectures, ou bien par Internet. Il a d'abord été, et il est toujours, un chercheur très important sur le surréalisme et ses origines.
Tu peux le dire.
Et il a, en cours de carrière, sauté sur le cheval de l'informatique, d'abord à travers les fiches perforées, que d'autres connaissent encore ici, et puis petit à petit avec des ordinateurs de différentes générations. Il est donc un exemple de l'adaptation humaine, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes ici, qui devront faire leurs preuves avec les futures technologies nouvelles. Maintenant, il a fini d'enseigner en tant que professeur, il est à la retraite comme on dit, mais comme vous le savez, la retraite des grands professeurs est un moment où ils travaillent encore plus à d'autres projets, et c'est très bien comme ça. Évidemment, Henri a démarré des études informatisées à Paris 3. Il a formé le jeune homme que vous avez entendu ce matin, et puis celui que je suis également, à ses différentes pratiques. Et plus que l'utilisation des matériels ou des nouvelles technologies, c'est vraiment des façons de penser la recherche que Henri nous a transmise ou aidé à acquérir. Maintenant, après avoir travaillé pendant 15 ans sur le projet de Hubert de Falaise, et a continué bien sûr, il s'est occupé depuis 3 ans du projet de Europe.
À peu près,
hein. Alors le projet de Europe, évidemment, tout le monde connaît la revue, et puis Henri va le présenter en détail. Tu reprends l'historique complet ?
Non.
Non ?
Rapidement.
Rapidement. Donc vous connaissez la revue qui existe depuis 1923. Il a d'abord fallu rassembler tous les numéros de la revue pour pouvoir les numériser. Et c'était déjà un gros travail pour lequel la liste de discussion LITOR a été mise à contribution, comme d'autres moyens évidemment de communication, de façon à avoir tous ces textes. Et puis Henri a supervisé toute la préparation dont il va nous parler maintenant. C'était digne.
Ouais. C'est bien. Je voudrais simplement rappeler le titre de ma communication qui est « Conservation et actualisation du patrimoine littéraire, le DVD de la revue Europe n'étant qu'un exemple de cette problématique plus générale ». Mes amis du comité scientifique organisateurs de cette rencontre me sont témoins qu'en proposant ce titre l'année dernière, je ne pouvais prévoir que s'élèverait en ce début d'année 2005 une polémique internationale sur les diverses modalités envisagées de conserver et d'actualiser le patrimoine littéraire mondial. Et je dois dire que j'ai écrit ce titre, j'ai proposé ce titre et je ne pouvais pas tomber plus juste. En toute ignorance de cause, je n'étais évidemment pas au courant de ce qui se tramait du côté de Google ou ailleurs. En effet, c'est le 14 décembre 2004 que les dirigeants de la firme Google ont annoncé, sous le nom de Google Print, leur projet de numériser 15 millions de livres en 6 ans pour les mettre gratuitement à la disposition de tous les internautes. Peu après, le président de la Bibliothèque nationale de France, dont on a parlé tout à l'heure, Jean-Noël Jeannet, a dans Le Monde, dans une chronique, dans une tribune libre du Monde du 22 janvier 2005, une chronique intitulée « Quand Google défie l'Europe », il a essayé donner la position, la réaction. Alors vous le trouverez sous forme d'un livre maintenant qui est paru il y a quelque temps. la réaction donc du responsable qu'il est, et chacun jugera cette intervention selon sa propre appréciation de l'internet littéraire ou pas, de l'internet en général, francophone en particulier, prématurée, mal informée, gauloise, pour ne pas dire gaulliste, ou au contraire, venant justement à point nommé pour affirmer la nécessité d'une politique européenne visant à faire connaître donc notre patrimoine, le patrimoine européen face à l'hégémonie américaine, je veux dire même plus qu'américaine, états-unienne, puisque le Canada et l'Amérique latine en seraient exclus de ce projet tel que, du moins, nous en avons entendu parler. On en parle par évocation, puisqu'en fait on n'a jamais eu le document sous la main précisément, ni même M. Jeannenet. Le fait est que Jeannenet plaide pour un sursaut, donc dans ce bref opuscule que je viens de vous montrer. J'observe simplement, ceci pour faire suite aux conversations de tout à l'heure, que par deux fois, le président de la Bibliothèque nationale a eu besoin d'un autre média qu'Internet pour faire connaître sa position. Une fois c'est la radio, et deux fois ensuite c'est la presse et le livre. Ce qui montre que, pour l'instant, les choses ne sont pas uniquement enfermées dans un seul système médiatique. Il se trouve, et je ne puis en faire abstraction ici même, que membre du comité éditorial de la revue Europe depuis un quart de siècle, j'ai été élu il y a quelques années président des Amis d'Europe, association à but non lucratif, chargée de la défense et illustration de cette revue. Et c'est alors que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de collections complètes de la revue dans les bibliothèques parisiennes d'abord et de France en général. Alors il m'a semblé que, compte tenu qu'on pouvait procéder à une réédition éventuellement de l'ensemble de la collection, mais vous imaginez le prix de la chose, et d'autre part, s'il circule quelques exemplaires, on a beaucoup de mal à constituer une collection complète, d'autant plus qu'il y a un problème de conservation de tous ces documents imprimés au XXe siècle. Depuis la fin du XIXe siècle, nous savons que le support est extrêmement périssable, bien plus périssable que les livres du XVIIIe, par exemple, aujourd'hui encore. Donc il fallait trouver un changement, un nouveau support, et surtout republier l'ensemble de la collection. Autant dire d'emblée que nous n'avions pas les moyens de cette republication et que nous ne pouvions pas non plus nous lancer dans un programme de numérisation de textes traditionnel, hein, parce que le coût de la numérisation, même en faisant appel à des firmes délocalisées, est quand même extrêmement coûteux quand on a je ne sais plus combien de milliers de pages. Il y a 860 numéros à 250 pages en moyenne, vous voyez un peu ce que cela donne comme coût. Alors cela m'incitait à promouvoir, à chercher d'autres solutions, et tout en étant dans la sauvegarde du patrimoine littéraire. Je parle pour l'instant simplement de sauvegarde et pas d'actualisation. Alors, quels furent nos choix et pour quelles raisons? Ce sera l'objet de mes propos qui vont suivre, illustrés par une réalisation qui a au moins le mérite d'exister et d'être accessible à tous, et on verra comment, ce faisant, il me semble avoir apporté une réponse au défi lancé, une réponse par anticipation au défi lancé par M. Jeannenet quand Google défie l'Europe, car lui-même lance un défi à sa façon. Alors, on va reprendre d'un peu plus haut si vous le voulez bien. Conserver et transmettre le patrimoine. La question se pose au plan des institutions. Qui devrait le faire? Pourquoi doit-on conserver institutionnellement le patrimoine culturel ou littéraire de notre pays? Il se trouve qu'il y a eu une réponse, et elle n'a pas été donnée par la République, elle a été donnée par la monarchie. C'est François Ier qui, le premier, a décidé que tout ce qui se publiait en France devait être conservé. Et dans son décret de Montpellier, du 28 décembre 1537, il précise qu'il doit y avoir un exemplaire déposé à la bibliothèque royale, qui se trouve à Blois à l'époque, conservé par un poète, un abbé poète, Mélin de Saint-Gelais, et il précise bien les raisons. Il faut garder la mémoire de la chose, et deuxièmement, permettre de vérifier, en cas de conflit, en cas de discussion, l'authenticité du texte. Le texte qui sera déposé chez lui et à la bibliothèque royale fera autorité en quelque sorte pour les copies ou contre les falsifications et les copies, puisque vous savez très bien qu'à l'époque le système de la copie était aussi fréquent et même plus que sur Internet aujourd'hui. Donc on voit bien quelles sont les raisons d'origine de la conservation du patrimoine, mais on n'en est encore qu'à la conservation. Mon propos n'est pas aujourd'hui de revenir sur l'historique de la Bibliothèque nationale de France. Il se trouve que la Bibliothèque nationale de France est l'héritière de la Bibliothèque royale de François Ier. Mais cela explique fondement les origines pourquoi, lorsque je me suis trouvé par les circonstances détenir le titre d'Europe, en ma qualité de président des Amis d'Europe, lorsque je me suis tourné vers certaines institutions, dont la BNF, pour essayer d'obtenir les moyens de rééditer d'une manière ou d'une autre cette collection, eh bien, je me suis heurté, j'ai trouvé des réponses très gentilles, très courtoises, mais en général des réponses d'attente. Lorsque, à l'époque, c'était pas Jeannonnet qui en était le président, mais les différents présidents qui sont succédés ou leurs conseillers techniques pour la numérisation m'ont gentiment dit « Oui, c'est un projet que nous allons prendre en considération le jour venu. » Le jour est passé, hein, bon, tranquille. Voilà. Donc, et la raison en est simple de cette réponse, c'est que, de ces réponses d'attente, c'est que ils avaient en tête le projet Gallica, et que ce projet, évidemment, n'a fait l'objet d'aucune consultation de qui que ce soit. C'est un projet qui a été monté en interne, avec bien sûr les objections des usagers, mais jamais. Bon, et pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas dans les statuts de la Bibliothèque nationale de France de faire de la réédition. C'est pourquoi je suis remonté au décret de François Ier. C'est que le décret d'origine n'attribue qu'un principe de conservation et non pas d'actualisation. Alors, qui est chargé de l'actualisation du patrimoine en France ? L'Académie française, vous rigolez, n'est même pas fichue de défendre ses propres auteurs. Il n'y a pas de réédition des écrivains de l'Académie. Ou sinon, ce sont des rééditions privées. Et sans contribution, sans participation de l'Académie française. Alors, à qui peut-on penser ? Aux Archives nationales de France. Elles ont déjà beaucoup de mal à se classer elles-mêmes. Donc, à rééditer leur patrimoine, c'est pas envisageable. Finalement, il n'y a personne. Aucune institution, à ma connaissance, n'est chargée d'actualiser le patrimoine. L'imprimerie nationale, c'est une fiction, là encore.
Il n'existe plus, il n'existe
pas. Bon, d'abord on a signé, il nous est arrivé les uns les autres de signer pour la défense, mais elle conserve les caractères, la typographie, elle a un très beau patrimoine dans ce domaine, mais pas d'impression. Et les seules impressions qu'on a de la Bibliothèque nationale n'ont été faites que par un appendicule de l'imprimerie nationale. Donc il n'y a pas d'organisme pour l'actualisation et encore moins pour la numérisation Si ce n'est ce projet Gallica dont on a fait mention tout à l'heure et qui là encore se constitue en marge des statuts mêmes de la BNF. Si on se tourne vers les universités, les bibliothèques universitaires, c'est le même problème. Il n'y a pas dans les statuts des bibliothèques, des grandes bibliothèques interuniversitaires, de quoi faire de l'édition. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leurs attributions. Donc on en revient à l'entreprise privée. La conservation du patrimoine est affaire des éditeurs, la conservation et la promotion, l'actualisation du patrimoine est affaire privée des éditeurs ou des auteurs. Alors, je reviens quand même quelques minutes sur les grands projets qui ont été déjà examinés, évoqués par Michel Bernard tout à l'heure. Il y a quand même eu quelques grands projets, il existe heureusement, d'actualisation. Alors, je pense en particulier au TLF, que mentionnait Michel tout à l'heure. Il se trouve que, tout jeune professeur, je me suis trouvé associé au TLF, qui est l'exemple canonique du projet gaulliste. Vous savez, c'est comme le Concorde, il a été conçu exactement la même année que le Concorde, et je crois qu'il a le même destin que le Concorde, c'est-à-dire que c'est une superbe machine, quand on la regarde voler, on trouve ça magnifique, mais finalement, il y a peu d'utilisateurs et de moins en moins d'utilisateurs de la chose et de moins en moins de gens formés. Et en outre, c'est un projet qui a été construit pour fabriquer le nouveau Littré, mais il n'a pas été constitué pour faire une bibliothèque ou une banque de données de texte. J'ai en son temps fait les remarques nécessaires auprès du TLF pour que les moyennant quelques modifications peu importantes, peu coûteuses, on puisse en faire la première banque de textes française, mais ça n'a pas été le cas. Si bien que maintenant, quand Gallica nous propose des textes en mode texte, des numérisés en mode texte, où ils sont ceux du TLF et donc partiels avec plein de lacunes qui s'expliquent, qui ont leur raison d'être, mais encore faut-il les connaître. Par exemple, le TLF, quand il numérisait des textes, ne numérisait pas les citations, ne numérisait pas les titres. Si bien que lorsque vous vouliez faire une recherche sur le vocabulaire religieux de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, vous ne le trouviez pas, puisqu'il se trouve essentiellement dans les titres des poèmes, et que le texte, le TLF ne prenait que le texte sans les interprètes. Il suffisait de les rajouter. De même que pour les citations, un ouvrage comme Les études socialistes de Jaurès est constitué à 80% de citations de Marx, et il introduit le vocabulaire marxiste en France, mais comme ce sont des citations, la saisie du TLF ne les contient pas. Voilà, le genre de plaisanterie que nous avons. Alors, c'est pourquoi Gallica s'est tourné vers d'autres producteurs de textes, comme Bibliopolis et autres, et a mis à disposition, enfin par je ne sais quel accord, d'autres textes que ceux du TLF. Bon. Voilà encore comment de beaux projets, je vous disais, de beaux concordes, là, se trouvent compromis bêtement. On aurait pu avoir effectivement 3000 textes au moins français à disposition de l'ensemble. J'ajoute que même actuellement, le TLF n'est toujours pas accessible, mais Étienne Brunet parlera plus précisément. Le TLF n'est pas accessible directement par tout utilisateur d'Internet, puisqu'il faut normalement passer par une université. C'est un petit principe de contrôle, mais enfin bon, il est là. Alors, qu'en est-il présentement? Sauf erreur de ma part, certaines saisies ont été acquises par Gallica. C'est ce qui s'appelle l'offre numérique de la BNF. Non pas toutes, faute de fournir une garantie totale quant au texte. L'ensemble est cependant interrogeable donc par la base Frontext. Mais la base Frontext ne vous donne pas le texte intégral. Vous ne pouvez pas lire une page entière. Vous ne pouvez lire que des extraits relatifs à la à votre interrogation, la lecture du texte en continu, c'est par Gallica qu'elle doit se faire, et le plus souvent donc en mode image, ce qui peut avoir des avantages, mais pour la recherche, c'est pas toujours commode. Bon, c'est très lourd. Bon, enfin, voilà. De fait, la BNF semble avoir repris la main dans ce domaine avec Gallica, qui nous annonce à la date du 15 avril, enfin c'est une mise à jour du 15 avril 2005, 70 000 volumes imprimés en mode image, 1200 volumes imprimés en mode texte, 500 documents sonores et 80 000 images fixes. Bien que des accords aient été passés avec des éditeurs spécialisés, le nombre d'ouvrages en mode texte semble stagner depuis l'acquisition ou la mise en réseau de Frontex. Alors, on peut se retourner vers le projet Google, même s'il est suspendu depuis hier, depuis cette annonce d'hier. De quoi s'agissait-il, bon, et quelles étaient les caractéristiques? L'annonce est évidemment impressionnante, hein, 15 millions d'ouvrages en toute langue, etc. Et on peut penser que dans ces ouvrages en toute langue, il aurait pu y avoir peut-être 1 million d'ouvrages en langue française, à peu près, c'est qui va. Alors, on peut admirer le savoir-faire de Google. Bon, il y aurait sans doute le paiement doit être effectué, enfin, la rentabilité de l'opération doit s'effectuer par la publicité. Bon, c'est plus ou moins gênant, enfin, c'est pas rédhibitoire. Et on peut penser que les promoteurs seront dotés, les textes, des métadonnées nécessaires pour les plus pertinentes, ils ont fait leur preuve en la matière, pour nous faire accéder aux ouvrages recherchés. Alors, c'est là une très belle illustration, pour certains, du village planétaire dont parlait la presse il y a 2 lustres, possibilité d'accéder gratuitement de tout point du globe à la plus grande bibliothèque du monde. Voilà de quoi faire rêver. Alors que depuis la bibliothèque d'Alexandrie, les plus vastes bibliothèques du monde ont toujours été réservées à une élite, voilà quelque chose qui changerait la donnée. L'accès de quiconque, à toute heure, à tout document souhaité. Et je sais d'expérience qu'il ne faut pas négliger les forces de frottement, j'appelle forces de frottement l'équipement du pays en ordinateur, en réseau, la compétence minimum requise du lecteur, etc. Reste que tout cela est magnifique. Mais, disent les esprits chagrins, dont M. Jeannenet, c'est une manière de conserver ou de valider la domination de l'anglais sur toutes les langues et cultures du monde. En outre, ce projet reste opaque, ou restait, et même s'il est suspendu, bon, je pense que ça va reprendre sous une autre forme, rien n'indique sur quels critères seront choisis les textes numérisés, ni de quelle manière ils seront numérisés, ni quel sera le comité d'experts, le comité scientifique qui va en faire la sélection. Le secret entourant les accords passés avec les deux universités américaines et même la Bodleian d'Oxford fait que on peut s'inquiéter légitimement. Je suis pour ma part très sensible à l'argumentation de la BNF. Je le serais davantage si le public avait été plus et mieux tenu au courant de la politique de numérisation de la BNF. Il se trouve que j'ai été pendant plusieurs années président d'une grande bibliothèque interuniversitaire, de plusieurs bibliothèques interuniversitaires françaises, et que jamais, au grand jamais, jusqu'en 1995, depuis d'autres m'ont succédé, nous n'avons été tenus au courant des projets de la BNF, ni associés, ni consultés. La raison en étant que la BNF relève du ministère de la Culture et que les bibliothèques interuniversitaires relèvent du ministère de l'Éducation nationale. Mais n'empêche que les belles protestations de M. Jeannenet seraient un peu plus fondées si il avait consulté ou ses prédécesseurs, hein, c'est pas lui qui est en cause, c'est le président, hein, je parle du président, je ne parle pas de l'individu, si ses prédécesseurs avaient consulté la communauté scientifique française. Alors, vous allez me dire, mais non, mais maintenant tout est clair, tout est, c'est mis, c'est écrit, voyez, regardez, dans Gallica, on vous dit exactement quel est le projet et quel est l'objectif de Gallica. Oui, j'ai regardé la date, depuis le 13 avril 2005, c'est-à-dire exactement 15 jours après la fin de la rédaction de ce livre. Donc il était normal, c'était la moindre des choses, que M. Jalonnet fasse le ménage devant sa porte et demande à Gallica d'indiquer ses objectifs. Voilà comment fonctionne le système. Alors je comprends ce sursaut d'une institution étatique qui, en 20 ans, n'a même pas pu numériser la 200e partie de ce qu'annonce une firme privée cotée en bourse de surcroît. Je comprends aussi tous les directeurs des grandes bibliothèques d'Europe et du Canada qui, à terme, imaginent leurs institutions désertées et surtout leurs crédits réduits par manque de clientèle. Parce que n'oublions pas, excusez-moi mes chers collègues qui êtes directeurs ou responsables de bibliothèques, le principe d'un conservateur de bibliothèque, c'est de conserver. Ce n'est pas de mettre à disposition du public. Et donc il y a une menace évidente dans le projet Google, quoi qu'il en soit. Je comprends surtout que tous ces hauts personnages sont vexés de n'avoir pas été tenus ni consultés par l'entreprise Google. Ils craignent le pire et c'est évident puisqu'ils n'ont pas mis la main à la pâte. Qui nous dit que parmi ces 15 millions d'ouvrages, il n'y en aura pas au moins un million, il n'y en aurait pas un million qui serait numérisé par Google. Qui nous dit qu'à terme, l'usager devrait payer l'accès à Google. Je rappelle que la BMF, les gens de mon âge le savent, elle était gratuite. L'accès à la BMF a toujours été gratuit, jusque dans les années 70. Où on s'est mis à nous faire payer, à faire payer toute consultation, mais c'est un organisme d'État ouvert à tout le public, et pas seulement aux universitaires, pas seulement aux chercheurs. Et qu'en est-il maintenant aujourd'hui? Bon, la crainte qu'on a pour Google, moi je dis, c'est pas une crainte, c'est une réalité à la BNF. On sépare les publics, on fait la différence entre les chercheurs et les non-chercheurs, et on fait payer différemment les uns et les autres. Bon, je vois pas ce qu'on peut craindre de Google, hein, franchement, à ce niveau-là. Bon. Qui nous dit qu'il faille craindre davantage la publicité affichée explicitement plutôt que les manœuvres, les oukases de certains administratifs? Moi, j'ai encore en travers de la gorge la réponse que me firent les conservateurs des bibliothèques de l'Arsenal et de la BNF, lorsque, quand nous constituions la banque de données d'histoire littéraire de la France, on avait inventé, quelle idée aussi, il faut dire que j'ai toujours eu des idées à la con, c'est pas possible, on avait décidé d'envoyer tout étudiant de DEUG, première année, aller en bibliothèque, chercher un exemplaire de l'ouvrage dont il était question pour la BDHL. Donc de le tenir en main, simplement de le regarder et d'en faire la description. Réponse. Enfin, plutôt pas réponse, mais lettre effrayée de ses conservateurs me disant « Mais cher ami, vous vous rendez compte s'il va falloir accueillir des étudiants de première année pour une journée, hein, pas plus ?» Il suffisait de faire un laissez-passer. Hein. Mais des étudiants de première année, vous rendez compte, à la BN, scandale, ils vont salir partout, ils vont tout casser. Etc. Bon, alors soyons sérieux un petit peu, et je dis que le projet Google, c'est bien qu'ils mettent le pavé dans la mare de ces conservateurs, un peu trop conservateurs. Je comprends surtout, donc, je l'ai dit, que ces gens soient vexés d'être battus sur leur propre terrain. Oui, il faut préserver les intérêts de notre vieille culture européenne. Oui, il faut défendre notre langue commune. Oui, il faut préserver nos valeurs de toute caricature. Mais le président de la BNF, qui est un historien des médias, est trop intelligent pour ne pas voir la faiblesse de ses arguments. Appelant les institutions européennes à la rescousse, il concède déjà que le public peut s'accommoder de l'argent privé. Il le dit bien dans son projet européen, il faut lire attentivement sa défense, il y aura de l'argent qui viendra du privé. Et évidemment, pourquoi ? Parce que le savoir-faire des entreprises privées est bien supérieur à celui de nos entreprises publiques dans ce domaine. Je ne s'agit pas de généraliser. Et il est bien trop bien conseillé pour ne pas savoir qu'à terme, et déjà aujourd'hui, il l'écrit lui-même, l'opposition technique entre mode image et mode texte est plus ou moins résolue. D'une manière plus ou moins satisfaisante pour le lecteur et même pour le chercheur. En somme, je crains que son coup de gueule ne soit que médiatique, non seulement parce que les jeux sont faits ou seront faits, mais surtout parce que l'Europe s'en est déjà remise aux États-Unis. Il n'est pas de Gaulle qui veut. Il eût été plus pertinent de rassembler en réseau mutualiste non hiérarchisé, selon les principes mêmes de l'Internet, il faut revenir aux origines, les bibliothèques numériques actuellement à l'œuvre, petites ou grandes, et de leur donner la plus grande visibilité en mettant à leur disposition, c'est là où la puissance publique serait utile, en mettant à disposition un moteur de recherche puissant et qui lui-même est relayé naturellement par les vedettes du jour. Si c'est aujourd'hui Google, c'est Google, si c'est Yahoo, ce sera Yahoo, ou voilà, peu importe. Alors, Michel Bernard a évoqué tout à l'heure quelques initiatives diverses, je vais simplement les mentionner. Je ne parlerai pas de la bibliothèque de Lisieux pour laquelle j'ai un faible, parce que je peux le lire tranquillement et parce que moi je lis sur écran. Je suis peut-être un peu un rare, mais je ne peux pas lire sur papier. Ma visibilité, ma vision est très mauvaise. Je lis mieux sur écran parce qu'il y a une loupe que je n'ai pas. Et vous avez déjà essayé de lire un journal avec une loupe ? Alors, l'intéressante, c'est la boue, puisque c'est comme ça qu'il faut épeler, et c'est le début d'Abou Lafia, du grand automate, l'équivalent de Mongolem. Alors, l'ABU a numérisé, avec bien sûr des défauts, on peut faire des reproches, mais il y a quand même, c'est une initiative individuelle, privée, une association, loi 1901, et on peut se fonder sur cette organisation-là pour développer quelque chose. L'autre que je voudrais mentionner, que n'a pas mentionné Michel, c'est les Classici Stranieri, qui sont dirigés par Valerio Di Stefano. Ces classiques étrangers en langue originale forment une collection fournissant gratuitement au format e-book de Microsoft, je cite, le meilleur de la littérature de tous les temps, en toute langue et en tout pays, essentiellement ceux de l'Europe culturelle. Ils annoncent actuellement 350 titres en français, enfin j'ai fini ma citation, fermez les guillemets, ils annoncent actuellement 350 titres en français allant de quelques pages, du Napoléon Bonaparte, une aventure au Palais Royal, par exemple, à un millier de pages, par exemple, les 120 journées de Sodome du Marquis de Sade, ou bien Proust, toute la recherche du temps perdu. La pagination, évidemment, dépend du format choisi par le lecteur, et cette édition-là se présente comme une édition numérique, une nouvelle édition. C'est-à-dire qu'il ne donne pas une origine, mais il y a une réédition comme fait le livre de poche quand il va rééditer ou tel autre format. Bon, voilà. Alors, on peut en penser ce qu'on voudra, mais elle existe. Simplement, une remarque, ce sont toujours des ouvrages du domaine public. Et, avec un copyright. Je ne sais pas comment c'est fabriqué. Je mentionnerai seulement aussi les réalisations spectaculaires de la société Redon qui ont été mentionnées par Michel, l'encyclopédie Diderot d'Alembert avec les images, le Grand Larousse universel de Pierre Larousse qui a été un grand succès en son genre. Alors, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à me rapprocher de cette société pour ce qui concerne Europe, dont une collection complète, bien sûr, existe au siège de la revue. Mais cette collection-là, on ne peut pas la désosser pour la photocopier ou la numériser, parce que c'est la collection témoin et c'est la seule. La seule qui soit complète, absolument, avec les publicités, etc. Alors, toutes les opérations précédemment mentionnées résolvent la question du droit d'auteur portée à 70 ans aujourd'hui en ne reproduisant que des ouvrages qui sont tombés dans le domaine public. Alors, dans le cas présent, je n'esquiverai pas la réponse à la question qui vous brûle les lèvres, je vous vois bien vous agiter. Eh bien, c'est que l'Association des Amis d'Europe est propriétaire du titre, je vous l'ai dit, je suis propriétaire du titre d'Europe, je considère que j'ai fait une réédition de la revue Europe intégrale, c'est tout. Alors, actualiser, c'est ce que j'ai fait, c'est faire passer de l'archive, du rayon de la bibliothèque à l'actualité, rendre présent ce qui n'était disponible que sous certaines conditions. Qualification du lecteur, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'ABN, il faut être chercheur pour avoir droit d'accès à telle chose. Bon. Qualité du support papier, disponibilité du document, vous voyez le nombre de documents qui est à l'ABNF, on vous répond sorti ou pas en place, pardon, c'est la belle formule, pas en place. Un jour, il m'est arrivé de chercher un annuaire téléphonique. À chaque fois, on me répondait pas en place, pas en place. Alors, comme j'ai quelques amis quand même de ma génération à la BNF, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette réponse ? Oh, j'ai pas de problème, c'est que c'est tellement détérioré qu'on veut pas le communiquer. Mais pour toi, on va te le communiquer. On m'a emmené dans les réserves pour le voir. Bien, voilà comment on fonctionne à la BNF. Et ce qui m'a fait justifier et dire que l'idéal de la BNF, et c'est logique, c'est de conserver. C'est pas de prêter. Bon, nous savons tous qu'un texte n'existe que lorsqu'il est lu, rendu présent par la lecture. En l'occurrence, donc, actualiser, c'est d'abord faciliter l'accès à la totalité du corpus et, pour une revue, à l'ensemble de ses numéros. Je dis bien l'ensemble, sans défaillance, sans qu'il manque quoi que ce soit. Alors, il y a la première solution, c'est le microfilm qu'a utilisé l'ABN très longtemps. Hein. C'est d'abord apparu comme une bonne solution, mais très vite surmontée par l'édition numérique, avec ses multiples possibilités d'indexation, et qui elle-même est privilégiée aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai cherché une solution numérique. J'ai dit tout à l'heure qu'une numérisation total, lettre par lettre, enfin comme savent les faire les firmes spécialisées, était extrêmement coûteuse, enfin au-delà de toutes nos possibilités. Donc cela m'a fait me tourner vers la solution que vous avez sous les yeux, puisque Patrick est en train de vous distraire pendant que je vous ennuie avec mes propos. Mais c'est pour ça que je lui ai demandé de le faire. Hein. C'est comme ça. Vous avez dit... tu montres une page en mode image, simplement.
Hein. Première page de du numéro 1.
Voilà, si tu veux.
Qui va arriver.
Par exemple. Donc, on fonctionne en mode image. On peut lire la revue, la feuilletée, comme on feuillette sur les rayons de cette bibliothèque. Et... possibilité, enfin un gros avantage de la solution proposée par la firme qui ne s'appelle plus Redon mais Félix, parce que Félix qui cui potuit, etc. C'est la lecture en mode texte. Une numérisation en mode texte, on demande sur n'importe quel article, tu peux demander un article. Voilà la vie sentimentale de Pierre Masson, on demande l'OCR et on a la version tout de suite. Vous allez voir la vitesse à laquelle
ça dépend de l'ordinateur.
Ça, ah voilà. J'aurais dû me tenir. Voilà, vous avez l'ensemble du texte numérisé. Alors, bien sûr, c'est la numérisation à la volée, ce qu'on appelle une numérisation à la volée, mais on peut le copier, le travailler dans son traitement de texte habituel, corriger les quelques erreurs qu'il peut y avoir. Actuellement, on prétend avoir atteint une fiabilité à 97%. 3% d'erreurs, voilà, bon, je crois que c'est tolérable. Voilà la solution. Bon. Alors, ce qui est important, c'est surtout de fabriquer les métadonnées. Alors, je passe rapidement, là encore, j'évoquerai... Qu'est-ce que j'ai fait de ma montre ? Simplement qu'il a fallu unifier dans les métadonnées, pas dans le texte lui-même, parce qu'il est en mode image, vous pouvez vous y reporter, rien n'a été touché. Mais pour les métadonnées, il a fallu unifier les noms, parce que la revue elle-même, sur une durée pareille, depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'an 2000, on s'est arrêté à 2000, là uniquement pour des raisons comme ça de réalisation. La typographie a changé, les principes typographiques ont été modifiés. Par exemple, il y a une époque où il n'y a pas d'accent sur les capitales, maintenant il y a des accents sur les capitales, etc. Or, quand on fait une recherche automatique, il faut pouvoir, quand on cherche un nom, déranger, si vous voulez, il faut bien qu'on ait toutes les graphies possibles. Alors, unification, les noms, les prénoms, homogénéisation, je dirais, tout ça a demandé un gros travail. Vous voyez aussi tout de suite les avantages de ce genre de, d'opération, c'est que comme il existe bien des tables de la revue au dernier numéro de chaque année, mais il n'y a pas de table cumulative. Donc là maintenant, on a les tables totales, fiables, révisées, etc. Alors, familiarisé avec les bases de données, en outre, le lecteur est devenu de plus en plus exigeant. Il veut savoir exactement si la revue Europe a bien publié ou non du Trotsky. Oui, elle a publié 8 fois Trotsky, de 1932 à 1935, avec son histoire de la révolution russe. A-t-elle publié du Céline ? Oui, elle a publié un Céline dans son numéro d'octobre 1932, un extrait du Voyage au bout de la nuit sous le titre Lola en Amérique. Pardon, Lola d'Amérique, excusez-moi. Combien de textes d'André Chanson a-t-elle publié ou de Louis Guilloux ? Ben c'est simple, c'est 27 dans un cas, 22 dans l'autre. Ce genre d'interrogation est évidemment indépendant de la réédition de la revue, mais c'est la première tâche à laquelle je me suis adonné. D'abord, ça a été évoqué par Michel tout à l'heure, c'est pas dans le cadre d'Hubert de Falaise, c'était en dehors, mais nous avons mis les tables de la revue Europe, donc fait avec les étudiants et avec les défauts, on pourrait en parler dans la discussion, que comporte là. Il y a un avantage, c'est de former les étudiants, mais il y a des défauts de fiabilité. Il y a toujours un étudiant plus astucieux que l'autre qui nous casse un peu la machine. Bon, mais cela étant, ça existe. Maintenant, elles sont améliorées, justement, grâce à ce travail. Et vous pouvez toujours accéder aux tables indépendamment du DVD. Elles se trouvent à la fois sur le site de la revue Europe et sur le site de Paris 3, de l'Université Paris 3, avec un site miroir sur Europe. Bon, toutes ces données, évidemment, on souffre un petit peu de, des variations de l'imprimé, donc on a corrigé tout cela. Et afin de permettre une interrogation et par suite une consultation par numéro de la revue, il a fallu trouver une solution pratique aussi. Il se trouve que la revue s'est interrompue de août 39, enfin septembre 39, à janvier 46, pour une raison qui n'est pas dite dans la revue. J'ai cherché, et là maintenant je peux le dire avec certitude, à cause du pacte germano-soviétique. Jean Cassou a stoppé la publication, furieux, du pacte germano-soviétique, mais il n'y a pas un mot, vous ne trouverez pas une occurrence, vous pouvez la rechercher, de germano-soviétique dans la revue. Mais voilà la raison, donc une cause extérieure, une explication intérieure, mais on peut vérifier maintenant si la revue, je veux dire, plus commodément, tout le monde pouvait le faire auparavant, bien sûr, mais maintenant, alors il a fallu résoudre ce problème de double numérotation, parce qu'en 1946, la revue...
44 occurrences de germano-soviétiques.
Hein ? Tu plaisantes ? En liaison, avec proximité 1.
Avec Cassou ?
Non, avec une proximité de 1. La liaison, le syntagme germano-soviétique.
Oui, il est là. Hein. 44 occurrences.
Mais ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est... Bon. Alors, je dis des bêtises.
C'est le terme lui-même.
Oui, vas-y, fais voir.
Première occurrence.
Oui.
Le texte est ici. Le pacte germano-soviétique.
Oui. Ah, autant pour moi.
44.
Ouais. Des articles de quand?
Attends, celui-ci.
Ah, j'ai dû chercher avec Jean Cassou. Mmh. Ça doit être avec Cassou. Avec Cassou, j'ai pas trouvé. Bon. Je suis mauvais chercheur. Hein. Alors, parlons de la recherche multicritère. Elle vient d'être montrée. Voilà, le gros avantage du système, c'est que on a pu faire une recherche sur le texte. Dans le texte. Alors, ça a une petite lourdeur. Vous voyez, c'est que le système ne porte pas directement sur le texte, mais sur les articles. Il vous donne la réponse en nombre d'articles, hein, et non pas en nombre d'occurrences. Bon, mais on peut quand même, grâce à cette icône, aller rechercher de l'une à l'autre, passer de l'une à l'autre, et on voit la page entière quand même, ce qui a aussi son intérêt. Bien. Qu'est-ce qu'il faut dire donc?
Il n'y a pas de co-occurrence. Hein,
oui, il n'y a pas de co-occurrence. C'est ce que j'ai cherché. Moi, j'ai cherché la co-occurrence. Bon. Mais on peut l'avantage aussi, c'est si je dis une sottise, vous voyez, vous pouvez la vérifier vous-même, dire c'est une sottise. Et ça, c'est important pour la recherche. La validation donc du phénomène. Une faculté supplémentaire, c'est les notes de lecture, la recherche qui a été la possibilité qui a été donnée de rechercher les notes de lecture, non seulement par l'auteur de la note de lecture, mais aussi par l'auteur recensé et par titre de la recension. Bon, c'est une commodité, ça demande aussi, là encore, de le penser à l'avance, hein, ça ne s'est pas fait en cours de route. Voilà. Alors, la recherche plein texte, on vient de vous la montrer, fonctionner. Recherche en texte intégral.
Bien, articles. Tu as 7 articles.
Finalement, sur.
Ouais.
Sur dans moi
ouais.
C'est plaisant, il y en a 67.
Non, mais dans le. Pardon, d'auteur. Dans le titre.
Ah ouais, d'accord.
Il y a 7 articles sur toi.
Ah, sur moi, ouais, d'accord. Bon, passons. Donc, vous voyez, ça vous donne des précisions de ce genre et la possibilité de réactualiser, d'actualiser. Très récemment, la chroniqueuse, on dit chroniqueuse ? Oui, c'est possible ? Oui, chroniqueuse du théâtre a pris sa retraite. Alors, on a fait une petite fête et puis moi je lui ai remis un exemplaire de la revue sous forme de DVD. On aurait pu aussi, puisqu'elle ne lit pas les DVD, enfin elle se fie à ses petits-enfants, pour cela, on aurait pu lui faire une réédition intégrale de ses 303 articles. Et à partir de là, le chercheur peut rapidement, sans grande difficulté, dégager, essayer de savoir s'il y a une politique théâtrale dans la revue Europe, si elle tient à cette personne-là ou à l'ensemble des autres chroniqueurs, etc. Vous voyez le genre de travail qui est possible, qu'on peut développer de ce côté-là. Autres travaux aussi dans la recherche, grâce à la recherche plein texte, c'est les mentions qui ont été faites par exemple de la montagne magique qui était un grand livre de l'entre-deux-guerres. Ben, il y a 47 articles qui en ont parlé. Hein. 47 articles, c'est quand même une belle quantité. On peut aussi travailler sur des concepts plus compliqués, par exemple littérature prolétarienne, ou bien, je sais pas, des références historiques, le mur des fédérés. Il y a 57 mentions du mur des fédérés, 57 articles, encore une fois. Hein. Le nombre de mentions est à l'intérieur. Alors, et rassurez-vous, vous pourrez lire les 49 articles qui parle des fantaisies biologiques de Lysenko. Bah, à l'époque, dans Europe, ce n'était pas des fantaisies. Hein. Aragon y croyait fermement. Bon, mais on peut aussi lire le premier article sur Ulysse de Joyce par Philippe Soupault. Facile à trouver.
La montagne magique, il est à Montagne Magique ou à la Montagne
Magique ? Montagne Magique, monsieur. Attends, je crois que c'est Montagne. Oui, moi, j'ai pas pris l'article. Ah non, n'importe comment. Alors, oui, ça m'est l'occasion de préciser que les mots très brefs, deux lettres, la, de, etc., ne sont pas dans la recherche, dans le moteur de recherche, de même que certains mots grammaticaux, si vous voulez, c'est un peu le même principe que pour le TLF. C'est pas la même liste, mais nous avons élaboré une petite liste de mots parce que ça ferait des réponses trop bruyantes. Hein. Voilà. Alors, feuilleter, lire, agrandir le texte d'un article, le copier, l'imprimer, le reprendre en mode texte pour effectuer toutes sortes d'opérations licites ou illicites, rechercher des articles en fonction de leur contenu, voilà en somme ce qu'autorise un tel outil, plus que documentaire. Reste à rendre compte des interminables journées de lecture et à exploiter le contenu d'une revue qui est, me semble-t-il, représentative de la production intellectuelle en France pendant trois quarts de siècle. Et c'est sans doute l'affaire des amateurs, mais surtout des chercheurs. Alors, l'exploitation, on l'a vu au passage, actuellement sont disponibles donc les tables d'Europe dont j'ai parlé, le DVD qu'on vient de vous montrer, et il est aussi disponible une version en démonstration sur Internet à l'adresse www.isaco.com. Et puis, il y a, c'est réservé ici au colloque, une version hyperbase réalisée par Étienne Brunet. Et avec cet instrument, on peut faire les études que vous connaissez de lexicométrie dont Étienne est le maître. Donc, vous voyez qu'on peut passer, mais il fallait passer par ces étapes-là pour arriver à Hyperbase. On ne pouvait pas fournir à Étienne Brunel les données sans avoir fait cette saisie numérique et cette saisie en mode texte.
Voilà. C'est la reprise.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on va exploiter tout cela ? Eh bien, je dirais qu'il y a une production individuelle, examiner la participation de tel ou tel écrivain, des animateurs de la revue. Par exemple, je me suis demandé si, quelle était la place de Romain Rolland dans cette revue, s'il détenait la première place ou non, puisque la revue a été fondée, disons, non seulement dans l'orbite de Romain Rolland, mais un peu à son initiative. Eh bien non, c'est pas lui qui est le recordman, puisqu'il n'a que 111 articles. Le recordman, c'est Pierre Gamara, avec 1091 articles. Donc, mais il faut dire qu'il y a une durée de Pierre Gamara, heureusement pour lui, c'est un très bon ami, et je suis heureux qu'il soit encore parmi nous, mais il y a une durée à la direction de la revue, des notes, etc., qui font qu'il est devenu le plus productif. Il est suivi par Charles Dobzhinsky, son adjoint pendant la durée, qui est l'actuel directeur de la revue, et ainsi de suite. On peut s'amuser à voir la participation des uns et des autres. Finalement, Aragon n'a jamais écrit que 88 articles dans Europe. Mais il faut dire qu'il sévissait parallèlement dans Ce Soir, dont il était co-directeur avec Jean-Richard Ploc, et dans Les Lettres Françaises, vous le savez. Donc voilà, mais on peut rectifier certaines visions. Par exemple, il y avait des collaborateurs de l'ANRF qui étaient de très fidèles piliers d'Europe. Jacques Robert France a publié 80 articles. Et bon, les anciens du groupe de l'Abbaye, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire littéraire, Arcos et Vildrac, ont publié l'un 31 et l'autre 25 papiers. Alors bien entendu, ces chiffres doivent être relativisés, et puis il faut lire, c'est évident. Mais vous voyez le genre de travail qu'on peut faire. D'autres travaux possibles, je dirais, bon, ce sont ces rééditions, ces lectures de notes, dans quelle mesure la revue a défendu certains écrivains ou pas, par exemple Giono ou Panaitis Strati. Alors, défense, et puis avec quelques réserves à certains moments. Alors, on pourrait poursuivre à l'infini ce genre de travaux, mais le plus important est ici de montrer, textes en main, de réévaluer certains auteurs. Par exemple, je pense à André Chanson, dont on a publié récemment l'ensemble de l'œuvre romanesque, avec une partie des contributions à vendredi. Eh bien, on peut voir quelles sont les contributions de Chanson à la revue Europe, et elles ne sont pas négligeables. Alors, on peut faire aussi une perspective chronologique, essayer de voir s'il y a bien des changements entre les différentes périodes que j'avais indiquées lors du colloque sur la revue Europe. Là, je vais passer rapidement, vérifier tout cela, vérifier donc cette question que je signalais tout à l'heure du sabordage par Jean Cassou, aussi voir quel est le rôle des éditeurs, les différents éditeurs de la revue, puisque le premier était Rieder, ensuite De Noël, et puis ensuite la Bibliothèque française et les éditeurs français réunis, et puis maintenant c'est une revue autonome en autogestion. Bon. De la même façon, il serait utile de valider, au sens scientifique du terme, les propos tenus de l'intérieur par Charles Dobzinski, qui disait « Europe, d'autre part, n'est pas une revue d'école ou de tendance littéraire. Elle ne s'est prévalue d'aucune obligation ni d'aucun dogme esthétique, fût-ce à l'époque où, pour certains, la vérité résidait dans le réalisme socialiste. C'est donc une situation singulière que celle de cette revue qui, à de rares exceptions près, n'a pas professé l'idéologie officielle du marxisme, mais, sans renier ses origines et son parcours, s'est tenue grosso modo dans la mouvance communiste en s'efforçant de s'affranchir de son schématisme et d'en éviter les étroitesses. » Donc, vous voyez, dans cette simple citation de quelques lignes, il y a un certain nombre de concepts clés qu'on peut vérifier, soit avec Hyperbase, c'est justement la transition que je voulais faire, sur les études lexicales donc, qui sont possibles désormais sur cette revue. Vous voyez que l'ensemble, la panoplie des travaux possibles, des curiosités simplement, il n'est pas nécessaire non plus de faire des recherches approfondies. Donc, et Étienne Prunet peut-être en parlera-t-il, mais en tout cas il l'écrira. Je crois savoir, sans trahir de secret, qu'il prépare quelque chose pour une publication que je devrais ignorer sur l'histoire de la revue Europe, enfin l'analyse de la revue Europe à l'aide d'hyperbase, et donc cette chronologie, puisque constituer quatre périodes et essayer de vérifier donc si cette périodisation est intéressante. Simplement pour donner un ordre d'idée, sur l'ensemble de la revue, les premiers mots pleins vie dans l'ordre. Vie, homme, temps, monde. Bon, vous allez dire, c'est pas grand-chose de prouver ça, puisque pratiquement, dès qu'on a un grand corpus, tous les textes mettent homme en tête, etc. Mais l'ordre des mots n'est pas le même. Et la fréquence n'est pas la même, et il faut aller revérifier évidemment à l'intérieur des textes, voir la valeur qui est donnée à chacun de ces concepts, mais vous voyez qu'on peut faire là une recherche en toute certitude. Je veux dire que autant il y a des mots qui ont été mal orthographiés, etc., on peut avoir quelques doutes, au moins là-dessus, on est tranquille. Je n'ai pas fait la recherche sur le mot Europe, par exemple, parce que je crains que dans l'actuel travail organisé, ce soit simplement l'intertitre, le titre courant, pardon. Donc, on ne va pas prendre Europe, mais vie, homme, temps et monde sont là des lemmes mises en évidence, si vous voulez, des vocables mises en évidence par la revue et qui ont leur sens, je crois, on imagine tout de suite.
12642 Europe.
Oui, mais celui-là, attends, ça c'est en plus, ça c'est avec tu es avec le DVD là.
Oui.
C'est pas avec Hyperbase.
Oui, bien sûr, ce sera différent.
Ah oui, c'est tout différent. Bon, mais c'est pas trop fiable. Bon, enfin, voyez, je voulais terminer par une petite image, mais je l'ai pas mise sur ordinateur, qui montrait quelle était la présence de quatre écrivains auxquels je m'intéresse en particulier. Aragon, mais elle sera dans l'article. Aragon, Soupeau, Zara et Benjamin Perret. Bon, ça nous donne une constellation qui montre quelles préoccupations, quelle place Europe leur a consacrée. Ben, Biron Soupeau fut un collaborateur fidèle de la revue. Aragon, épisodique et maléficieux, si je puis dire, à une période donnée. Ah oui, moi j'ai des raisons de penser que le destin d'Europe a été malencontreusement perverti par Aragon. Et puis Benjamin Perret, malgré tout, présent dans la revue, et Zara, présent à plusieurs périodes, à la fois comme auteur et ensuite comme auteur commenté. Voilà.
On peut vous demander ce que signifie note de la rédaction.
Ça veut dire non. NDLR, c'est NDL, c'est note de lecture. C'est pas note de la rédaction. C'est les notes de lecture dont j'ai parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait une recherche spécifique. Voilà, on a pu faire une catégorisation qu'on n'a pas faite, par exemple pour la poésie ou le roman ou la nouvelle, etc.
Là, il faut... on a une note de lecture sur Franck Venaille. Par Charles Dobzhinsky.
Voilà. Bien. Donc, vous voyez, il reste encore à faire, évidemment, pour nettoyer le texte, homogénéiser les données. Tout cela peut être exploité par les différentes disciplines des sciences humaines en général. Je veux dire, il n'y a pas que le littéraire qui est intéressé ici, mais je pense que l'historien des idées, le politologue, etc., pourra s'en servir avec profit. Alors, le comité scientifique de cette décade a pris soin de me faire remarquer dès l'origine que le DVD de la revue, c'était quand même pas l'Internet. Alors je vois bien l'avantage qui m'a été offert de parler d'un DVD en précisant tout simplement que le fait qu'il soit pour deux numéros sur l'internet justifie d'abord mon intervention, mais deuxièmement c'est la perspective, c'est que le choix du DVD ça n'est qu'une formule transitoire compte tenu du moment. Si la publication de ce DVD, dans les conditions que j'ai dites, au coût réduit, puisqu'on ne s'est préoccupé que de couvrir les frais du fabricant, de l'imprimeur, on va dire, hein. On ne paye que l'imprimeur dans cette histoire, si on était rentré dans nos frais, on aurait mis tout cela sur Internet immédiatement. Malheureusement, on en est loin, et j'en suis encore de ma poche. Bon, ce qui veut dire aussi, j'ouvre un peu le débat, que les solutions qui sont apportées ne sont... Bon, font abstraction des forces... Moi, je me rappelle toujours ces problèmes de physique. Au lycée, on me disait, on fait abstraction des forces de frottement. Toute ma vie, j'ai eu affaire aux forces de frottement. Et pas tellement au principe. Donc, il faut résoudre ces forces de frottement. Bon, mais vous voyez bien... que tout cela est une réponse, me semble-t-il, aux propos du président de la BNF. Je pense que dans un programme concerté avec les responsables, avec les éditeurs, avec les animateurs des centres comme Abou et compagnie, on devrait pouvoir avoir une réponse collective en langue française aux défis américains. il me semble que si j'ai pu démontrer à un moindre coût social, parce que le tarif de cette réalisation, le coût de cette réalisation est 6 fois inférieur à tout ce qui est proposé au Centre National des Lettres, hein, il faut le préciser, qu'on pouvait reconstituer une collection complète d'une revue d'une telle ampleur, et si je reste persuadé que de telles initiatives individuelles peuvent être amplifiées par la puissance publique, nationale, européenne, mondiale, enfin, peu importe, il reste un autre facteur à résoudre, c'est celui de la pérennité des supports choisis ou des produits élaborés. Nous savons que, contrairement aux rêves des années 80, le support en question va être périmé, sera périmé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste, c'est que saisie optique, saisie numérique, nous avons, quoi qu'il en soit, de quoi passer aux autres supports. Hein ? Un peu plus certainement que du microfilm ou que de l'imprimer tout seul. Mais en tout cas, voilà les choses sur lesquelles il va nous falloir réfléchir. On peut supposer que la numérisation du texte sera transférable d'un support à l'autre en fonction des progrès techniques ou des découvertes à venir. Il faudra faire en sorte que celle-ci prenne en compte non seulement le texte, mais surtout les métadonnées que nous venons d'apporter, dont j'ai montré qu'elles étaient, et ceci a été fait en 6 mois. Hein ? La question a duré très longtemps pour trouver les modalités et les moyens, mais la réalisation elle-même, c'est pas très long, hein, ça se fait très vite quand on y met les moyens, bien entendu. Voilà. Et tout ceci nous permettant donc de rendre lisible à nouveau et de peut-être, je vois que Patrick, toujours aussi pervers, s'est amusé à montrer un article de...
Il y a 30 ans.
Un article de 30 ans, voilà, sur Tristan Tzara. Voilà. Il est toujours accessible, toujours lisible.
Voilà. Août 75, Henri Béard, à mot découvert, et il parle de Schwab à l'intérieur.
Voilà, entre autres. Bien, voilà donc cette réalisation, et je la livre à votre curiosité. Il y a quelques petits dépliants. Il faudrait surtout que toutes les bibliothèques commencent par s'en doter, hein, avant toute chose. Moi, mon rêve, c'était que toute bibliothèque municipale, départementale, universitaire, et ça, c'est un réflexe à acquérir, quoi. Puis c'est tout. Bon, voilà.
Et il nous reste pas mal de temps.
Comment avant
le déjeuner. On peut peut-être s'arrêter avant le déjeuner quand même pour se reposer. Donc disons un quart d'heure, 20 minutes de questions, si vous voulez bien, monsieur Dodir.
Oui, alors je voulais vous féliciter d'abord. Norbert Dodir, l'Université de la Réunion. Je voulais donc vous féliciter parce que vraiment, quand j'ai appris l'existence de ce projet, il y a déjà quelques mois, peut-être grâce à la liste de Victor.
Oui, avec Victor, oui.
J'ai immédiatement pensé à la bibliothèque et j'ai demandé que le CD-ROM soit commandé et il a dû être commandé prochainement. Alors, deux petites questions de détail. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé des occurrences des noms de chez Romain Rolland, et vous avez comparé, mais si vous comparez avec le rédacteur en chef de la revue, est-ce que vous ne craignez pas que, comme à chaque numéro de la revue, le nom du rédacteur en chef peut être mentionné à plusieurs endroits, il rentre dans le compte ?
Non, non, ce sont les articles, là.
Ce sont uniquement les articles.
Oui, oui.
D'accord.
Non, c'est pas justement. C'est pourquoi c'est complémentaire. Votre question est intéressante puisque elle rend tout à fait complémentaire. Une fois qu'on a eu cet instrument-là entre les mains, et compte tenu de ma pratique aussi de ce genre d'outils, j'ai essayé. Ma question d'ailleurs à Étienne Brunet, c'était simplement est-ce que ton logiciel est capable d'absorber ces 60 millions de mots? C'était une simple question. Mais Étienne Brunet ne m'a pas répondu. Il s'est mis au travail. Tout de suite. Et il m'a renvoyé quelque chose qui était... Alors, c'est complémentaire. D'un côté, vous avez les articles et le nombre d'articles qui contiennent ce mot ou cet auteur, là il s'agit de rassurez-vous, ça a été fait à part, hein, donc on a vérifié tout cela. Quand je dis il y a 100 ou je ne sais plus combien articles de Romain Rolland, ce sont bien les, et on a il y a une personne qui a vérifié les liens un par un pour les 100 articles. Voilà, c'est pourquoi je vous dis c'est un instrument très fiable. Et puis par ailleurs, la mention du nom Romain Rolland, alors on la trouvera un peu plus finement avec le logiciel Hyperbase.
Alors, la deuxième fois, vous avez parlé du TLF, vous avez dit, on ne peut, il y a ces écologistes malentendus, qu'à travers l'université,
oui.
Le TLF, on l'a directement.
Non, attention, je ne parle pas du dictionnaire, je parlais de Frontex.
Ah, d'accord.
Mais excusez-moi, j'ai peut-être fait un lapsus, mais je vais vous expliquer pourquoi ce lapsus, tous les lapsus s'expliquent. Et vous savez qu'ils ne sont pas tous significatifs au sens freudien. C'est Freud qui le dit lui-même. Si j'ai confondu, c'est que à l'intérieur de l'Institut National de Langue Française, on parlait du TLF comme étant l'ensemble de la base avant qu'elle ne soit dissociée et présentée sous le nom de Frontex. Voilà les origines de ma confusion.
Monsieur Speer.
Oui, Thomas Speer. Moi aussi, je voudrais vous féliciter. C'est super utile pour tout le monde. J'ai des questions très typiques. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez utilisé comme DPI pour l'ensemble. La résolution.
Pas moins de 300.
300.
Pas moins de 300.
Par mois, il y en a plus.
Pardon ?
Parfois, vous faites plus.
Je ne sais pas sûr. Il a fallu refaire quelques numéros parce que c'était tellement mauvais. Le support était tellement mauvais.
Alors,
je ne peux pas vous répondre
et
concrètement.
Vous avez augmenté le
En gros, c'est 300.
Et est-ce qu'il y avait, par exemple, sur quelques numéros où il y avait des pages étaient mal faites ou vous avez carrément corrigé
l'original ? Non, non. L'image, c'est toujours l'image tel qu'on a pu l'apprendre, mais je vous dis parfois avec en améliorant la qualité technique de l'image, mais pas de modification.
Et quand on fait ces recherches par mot clé, j'ai vu que vous avez, on arrive sur l'image et puis on clique sur le bouton pour le OCR. Ça veut dire que l'ensemble n'est pas numérisé en texte, l'ensemble est numérisé en image. Et c'est au moment de faire les recherches.
Oui.
Mais comment ça arrive qu'on peut faire ces recherches par mot clé quand en fait l'ensemble n'est pas
C'est fort, hein.
Ça c'est fort. Ça c'est secret de fabrication. Vous savez, les entreprises ont toutes ce qu'elles appellent leur secret de fabrication.
On ne connaît pas le Coca-Cola.
C'est comme ça. Vous n'avez pas la formule. Vous pouvez tous faire du Coca, Braise. Je fais un peu de publicité pour ma province. Il y a le Coca, Braise, mais il y a aussi le Cola Mec. Hein, aussi. Meca-Cola. Mais il n'y a pas la formule exacte.
Non.
À vous de supposer. Non, mais vous savez, vous avez compris. Vous posez une question à laquelle vous savez déjà la réponse.
Attends, monsieur.
Oui. Ben, je me félicite parce que je suis abonné à Europe depuis 1960.
Ah ben, on va vous faire une réduction pour le DVD.
Oui, ce qui fait que, dans le fond, j'ai beaucoup plus que la moitié de ce que l'Europe a été.
Oui.
Et j'en suis très heureux parce qu'en fait, depuis 60, il y a 45 ans de revue chez moi.
C'est bien.
Et oui, maintenant, mais je vais avoir la totalité.
Voilà, vous aurez les racines.
Voilà, exactement.
Et puis en plus, c'est quand même plus facilement transportable.
Oui, alors, est-ce que le DVD peut aller sur un Macintosh?
Non, il est seulement sur PC.
Ah,
alors là aussi, c'est une réponse, une question technique.
Ah,
quand il y aura suffisamment de demandeurs, on fera une version Mac. Mais pour l'instant, l'échec de l'opération, je parle d'échec technique, hein, de vente, c'est pas, ça va pas. On peut pas faire ça. Multiversion, c'est pas possible.
Alors donc, il faut que je change.
Il y a un émulateur PC pour Macintosh.
Ouais.
Si ça marche. Monsieur Brunet ?
Oui, on a tous applaudi avec les mains, moi je voudrais applaudir avec des mots.
Des mots pour le dire.
Réalisation, je suis un vieux jardin, je l'ai dit hier, ça doit se voir dans mon discours et sur ma tête. C'est une des plus belles réalisations, des plus grands étonnements que j'ai pu voir, pu avoir depuis 30 ans. Autre exemple, l'Encyclopédia Universalis, la première édition. Autre exemple, l'Oxford Dictionary. Bon, c'est de belles choses. Et la revue Europe sur ses DVD, eh bien, c'est une révolution que je produis. Bon, on trouvera plein de défauts, en particulier la lecture optique ne permet pas la sécurité absolue. Mais si l'on raisonne sur des grandes masses, sur des mots de grande fréquence, comme ceux que tu viens de citer, la vie, l'homme, le temps, le monde comme étant les quatre mots pleins et les plus importants, et quand on compare avec Frontexte, qui est du même ordre dans l'immensité, mais ce n'est pas du tout les trois mots qu'on trouve dans Frontexte, c'est homme, jour et femme.
Ouais.
Là, on est dans un univers intellectuel, on n'est pas dans un univers narratif, ouais. Donc ce n'est pas du tout les mêmes mots qui apparaissent en tête. Alors, je voudrais vous dire, puis je voudrais aussi, pour ceux que cela intéresse, vous dire que je suis disponible par le marché d'après-midi pour vous montrer la même chose,
pour l'atelier.
Mais dans le mode recherche d'un texte immédiat, avec qui il n'y a pas besoin de parler. Et surtout avec une exploration statistique de tout cet ensemble, parce qu'en fait, l'Europe, c'est une fenêtre sur le monde, sur un siècle. Et il y a, à travers cette revue, une évolution que les habitués peuvent constater quand ils ont lu tous les numéros, mais qu'il est encore plus facile de mettre en exergue, de mettre en relief, quand on dispose de tous les mots ensemble.
Sous la main.
Et il y a une évolution où l'on voit très bien, par exemple, la coupure de 39, de 39 à 45, il y a une coupure qui est très visible dans les résultats. Il y a d'autres coupures aussi que je te laisserai interpréter si... Si jamais ça vous intéresse, je peux venir à 3 heures. Ou...
On va faire une séance atelier. On va faire un atelier.
À 3 heures ?
Non,
je vais préciser après.
Il va préciser. Oui, oui, oui.
Il y a ma photo, il y a ma visite.
Oui, oui. Mais dans la soirée peut-être.
Patrick
va nous organiser ça. Patrick nous organise ça.
Est-ce qu'il y a d'autres revues sur lesquels un travail de ce genre a été entrepris?
Oui, il y a la quinzaine littéraire. Oui, mais si vous...
La Nouvelle Revue Française.
Non, non, mais la NRF s'est payé le luxe de se rééditer autant qu'elle veut. D'autre part, il y a une sélection en papier. Il y a une sélection par Jean-Bernard Hébet, je crois, des meilleurs articles. Enfin bon, une sélection personnel, pour Europe, non, il n'y avait pas. On pouvait aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais alors, comme réalisation du même ordre, je connais la quinzaine littéraire, la quinzaine, c'est un choix assez curieux. En fait, ça renvoie au site et à un abonnement au site pour la quinzaine.
J'ai la collection complète de la revue L'œil et j'ai enfin entrepris un gros travail.
Oui, très bien. Je ne connais pas.
Tous les tas des matières.
Ah, voilà.
Pour les projets, peut-être on peut comparer. Dans le projet de la Bibliothèque nationale, il y a la numérisation, je crois que c'est en cours, de la collection complète de La Croix, de l'Humanité et du Figaro.
Oui.
C'est trois journaux qui vont être numérisés entièrement. Donc là, c'est
vieux journaux.
Et qui étaient déjà sur, en microfilm.
Oui, voilà, ceux qui sont en microfilm. Alors, par ailleurs, il y a une base de données qui s'appelle G-Store, je pense que certains de vous la connaissent, mais qui est plutôt pour la littérature grise. Mais il y a très peu de documents en français dans cette revue, mais il y a beaucoup de revues critiques littéraires qui sont entièrement numérisées, un peu sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on accède à l'image, mais qu'on peut faire des recherches en plein texte par ailleurs. G-Store, c'est accessible par dans les bibliothèques universitaires, sur abonnement.
Monsieur.
Est-ce que les lettres françaises, n'existent plus malheureusement, mais est-ce que on peut les inclure?
Mais je ne sais pas.
Non, il faudrait que quelqu'un s'en charge.
Je ne peux pas vous répondre.
Là, on a.
Il faut demander à Jean Rista de s'en occuper.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est lui. C'est lui qui a un détenteur du titre.
Il faut un numéro par mois joint à l'humanité, comme le supplément des leaders du monde. Il faut ça une fois par mois.
Ah oui.
Et le dernier est très intéressant. Il faut le savoir.
Oui, mais c'est pour ça qu'on se réunit.
Est-ce qu'on pourrait chercher Marcel Chaume et le nombre d'articles qu'il y a dans...
Oui, je l'ai fait tout à l'heure.
Ah, et
il y en a, je ne sais plus combien c'était.
190. Tu as fait quoi, Marcel et Chaume?
Oui, oui.
Avec une distance
de... Il y avait René Chaume.
Tu ne mets pas une distance?
Je ne mets même pas de distance. Tu la mets à la distance ici.
Là, hein, là, tu mets à la distance.
C'est pareil. Voilà, ça c'est les occurrences de Marcel Schwab dans des articles.
Ah, ça c'est Marcel.
Attends.
Ah, c'est Marcel.
Non, tu n'as pas fait le... On peut refaire. Il faut mettre un et puis faire la sélection d'après. Il faut filtrer. Il faut filtrer. Il y a une possibilité de filtrer. Tu vois, tu mets un. Et tu as filtré, là. Tu mets un ici.
Ouais.
Tu as tapé un.
Ouais.
Bon, ensuite tu fais ici afficher et tu fais filtre.
Non, mais avant il y avait un bouton là pour filtrer.
Oui, bah là tu n'as pas enregistré ton. Il n'a pas enregistré ton bouton.
Je vais recommencer. Voilà. Alors j'en profite pour préciser que il y aura après le dîner, le soir, pour ceux et celles qui le souhaitent, des petits ateliers qui se constitueront dans cette salle au sujet des interventions du jour.
Ah, voilà, c'est ça.
Donc, on revient sur ce qu'on a vu.
Alors,
vous pourrez manipuler vous-même les DVD ou
on va vous faire. Il y aura trois possibilités. Étienne, toi et moi. Il y a trois machines.
Oui, ou d'autres, hein, si
non,
vous
mais
pouvez
alors,
apporter vos
non,
machines.
On n'a que trois DVD.
Ah oui, il n'y a que trois DVD. Moi, j'en ai un, deux, trois, quatre. Ouais.
C'est pas possible. Il ne reconnaît pas.
Voilà, c'est ici, il y a un bouton, là, filtrer le résultat.
Voilà,
avec
c'est ça.
Voilà.
Donc
il n'y en a que 4.
Ah, voilà. Mais vous voyez, la fiabilité, comment, pas la fiabilité, mais le filtrage qui est très intéressant, là.
Mais ça va pas,
ça nous...
tout à l'heure, j'avais un article de toi où tu parles de Marcel Chaume. Il n'est pas indiqué.
Il n'est pas là-dedans?
Non. Ah.
Ouais, il n'y avait pas son prénom dans le...
Ah, voilà. J'ai peut-être dit Chaume.
Ah, j'ai mis que Chaume.
Voilà. Sur Jarry, là, peut-être dit.
C'est ça, oui. T'as raison.
Non, mais ça, il faut manipuler un petit peu. Pour...
Voilà, il y a d'autres questions? Commentaires?
Notre livre qui est disponible en... Donc, est une revue francophone, pour le coup, au sens et qui est une revue en ligne, maintenant, et avec la possibilité pour le numéro avant...
Quoi, c'est l'ADP
de faire une recherche...
Notre librairie, oui, c'est bien.
C'est une revue de l'ADPF.
C'est l'ADPF. C'est
Association de diffusion...
Voilà.
Ouais. Ils ont peut-être des problèmes financiers, mais on ne le saura pas.
DVD, en fait, parce que ceux qui, les numéros qu'ils n'ont pas en ligne, ils ont un DVD.
Ah, oui.
Ils ont publié au moment du 5e.
Voilà. Moi, je pensais qu'il y aura un grand débat sur Google, tout ça. Personne n'y vient.
Vous savez, j'en reparlerai demain.
Anne Brunel.
Anne Brunel.
La question, là, me fait penser à une question relative à... L'échec dont vous parliez tout à l'heure, vous disiez échec technique, en fait c'est plutôt un échec commercial pour ce DVD.
Oui, oui, c'est commercial.
Vous expliquez le fait de ne pas rendre disponible sur Internet tout ce travail par le motif que la rentabilité n'était pas encore acquise. En quoi c'est véritablement contradictoire?
C'est pas contradictoire.
Les éditeurs aussi estiment que les livres sur Internet empêcheraient de vendre des papiers. Moi, je suis convaincue du contraire.
Non,
je pense qu'au contraire, une exhibition sur Internet ne peut que faire vendre le produit manipulable.
J'ai pas dit que c'était contradictoire. J'ai dit qu'il y avait une priorité. Il fallait qu'on paye le fabricant. C'est tout.
Oui, mais la notoriété que cela peut apporter au produit DVD grâce à une publication Internet peut peut-être permettre aux gens...
Il y a un échantillonnage. Il y a deux numéros actuellement. Au même moment, on a mis en même temps... Quand le DVD est sorti, on a mis deux numéros sur Internet, totalement accessibles, et avec la même technologie. Et ça n'a pas apporté pour autant... Mais je suis très mauvais commercial.
C'est juste un témoignage à propos des prix. J'ai vu arriver du piratage éhonté de l'universaliste dans les cours. Donc en fait, tous les étudiants avaient l'universaliste, qui était quand même une joie dans l'enseignant, qui était un souci. Est-ce que vous pensez que le prix que vous avez choisi, qui n'est pas un prix marketing, mais c'est un véritable prix important, n'est pas trop important pour des étudiants, par exemple, de début de formation en littérature?
On a moins pensé, là, honnêtement, hein, à l'étudiant que à la bibliothèque. Si déjà la bibliothèque l'avait acheté, on serait tranquille. Voilà. Ouais. Ah ben voilà. Moi je savais hein, que.
Et sa question porte au fait qu'un étudiant va l'acheter à 180 euros et puis
mais non,
il peut faire des copies à tous les autres étudiants, non? Comme si vous avez dit qu'il avait tout.
Sur Jacques Laurent en 1958.
C'est comme ça. Et ensuite, il m'a fallu ça a baissé ses tarifs aussi.
Oui, mais il y a un point, il y a un seuil, si vous voulez, c'est le seuil de d'audience de la chose, c'est tout.
Je ne me rappelle absolument pas avoir écrit cet article.
Et ben voilà. C'est possible. Et c'est pour ça qu'on parle de conservation du patrimoine.
Mars 1958.
Et vous étiez à l'époque.
J'étais déjà à la Sorbonne.
À la Sorbonne.
Jacques Laurent, qui m'écoutait Platon, commenter Platon et Descartes. Oui.
Voilà, on trouve tout, hein.
Au printemps.
Faut faire attention. Hein.
Oui, mademoiselle.
Marie-Lisa,
vous voyez, on découvre des choses.
Oui, qu'on n'aurait pas été chercher dans la collection complète. Même si vous aviez la collection complète ici.
Je n'ai plus aucun souvenir de cet article.
On va vous l'imprimer. On va vous l'imprimer.
Marie-Lisa.
Oui, donc je suis conservatrice à la BNF. Moi, je pense que justement, là, c'est une redéfinition du rôle de la bibliothèque. C'est vraiment important qu'elle se positionne comme diffuseur. Et comme, c'est une de ses nouvelles missions, même si ce n'est pas marqué de façon forcément leur surgent. Les bibliothèques sont en train de se repositionner comme diffuseur de savoir et comme éditeur. Avec en particulier du savoir de l'université, en particulier pour
les
universitaires.
Oui, mais ce n'est pas encore formalisé.
Non, mais c'est quand même en train de se faire.
Non, moi, je parle de mon expérience. Si j'avais demandé à mon université des crédits pour refaire ça, je me plantais. J'ai même pas essayé. Parce que je savais très bien qu'elle refuserait. Même on aurait mis, vous savez, c'est pas difficile de mettre à la place de ça, on aurait mis université X ou Y. Mais... Étienne ?
Est-ce que tu peux reprendre la parole ?
Bien sûr.
Générer la pugnacité devant le travail, mais également dans la critique. Je voudrais un peu atténuer une critique que tu as faite à la Bibliothèque nationale en disant que les universitaires n'avaient pas été consultés. Je suis obligé de m'inscrire en faux parce que j'ai fait partie d'une commission sur le choix des textes du XVIe siècle alors que j'étais 19e et 20e.
tu l'enfonces encore plus. Oui, non, moi je disais très précisément, il se trouve que j'étais à l'époque président de la bibliothèque de Sainte-Geneviève et de la bibliothèque de Langzaux et que j'ai jamais été avisé des projets. Bon. Alors peut-être des individus, c'est possible, je ne sais pas sur quels critères ça s'est fait. Je dis simplement que si la bibliothèque avait affiché plus explicitement son programme, son ambition, son comité scientifique, l'actuel président serait plus fondé à critiquer Google. Actuellement, c'est indéfendable sa position. Il n'a pas les moyens de se
corriger à la dernière minute chez lui.
Voilà.
Mais à l'époque non plus, il n'avait pas les moyens d'un budget très restreint.
Non, mais même, on avait.
Qui sortait le facot.
Mais on sent très bien aussi quelle est l'origine de cette absence. C'est le détachement de la BNF, de l'Éducation nationale, le rattachement à la culture. Voilà. Il y a deux ministères, et dès qu'il y a deux ministères, c'est fini. L'un ignore l'autre.
Arthur Rimbaud a écrit un texte dans Europe.
Ah oui ?
Ouais.
Et puis j'ai aussi, non pas posé une question, mais faudrait une réponse. Quelqu'un a demandé quel est le secret. Et tu as dit, secret fabrique. Non, il n'y a rien. Pour l'indication, c'est facile. À partir du moment où il y a un automate de lecture optique qui prend toutes les pages, il conserve tout le texte interprété. Tout le texte.
Avec une. En fait,
c'est numérique.
Si vous voulez.
Ça devient un texte continu dont on fait l'indexation normale. Ouais. Et bien entendu, les résultats sont sur le DVD. Il n'y a pas de mystère du tout là-dedans. Ouais. Simplement, le matériau est un peu. Il n'est pas très fiable parce que la lecture optique, si ce n'est pas corrigé, il y a une faute. Voilà. Mais les fautes ont été. Ont été caviardées. Sur le DVD, on ne voit pas. On ne voit pas des monstres. C'est-à-dire les mots mal orthographiés. On a gardé dans l'adaptation que les mots qui avaient été bien reconnus. C'est-à-dire les mots de la langue française.
Une erreur de lecture aussi, créer des mots qui n'existent pas n'importe quoi. Et le correcteur de grammaire voit tout de suite.
Bon, il y aura un silence sur ces mots-là, mais on n'aura pas le bruit.
Il y a beaucoup de noms propres, mais là, sans doute, vous avez fait un.
Et l'autre mot, c'est évidemment 300 mots par plus.
Non, en tout cas, sur les noms propres, dans les titres des articles et dans la table des matières, ont été vérifiés et homogénéisés à ce moment-là. Parce que, bon, par exemple, je citais Trotsky. Trotsky, il y a au moins deux manières d'écrire, de l'écrire. Au moins, dans la revue. Donc il fallait, à un moment ou à un autre, arbitrer.
Pour les textes anciens.
Alors je suis coupable d'arbitrage. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, je ne dis pas que c'était la meilleure solution, c'était simplement une solution technique pour qu'on retrouve tous les articles de la personne.
Voilà. Bien, on va peut-être s'interrompre et puis se reposer un peu avant le déjeuner.
Très bien.